Radio Okapi.
Une réunion stratégique sur les questions urgentes concernant la sécurité dans l'est du pays et la trêve humanitaire proposée par les États-Unis. Le président Félix-Antoine Tshisekedi l'a présidé hier au palais présidentiel de Mongalema. Dans ce journal, vous allez suivre le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya sur la détermination du chef de l'État à rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la RDC. Les feux de brousse ont ravagé près de 300 maisons à la fin du mois de juin dans le territoire de Lubefu, province du Sankuru. Plus de 700 ménages se retrouvent ainsi vivre à la belle étoile, exposés aux intempéries. Le député national Hippolyte Diatté, élu de Lubefu, demande au ministre des Affaires sociales de les assister. L'invité de ce journal s'appelle Jérôme Boileso Kiluka. Il est moniteur agronome dans les secteurs de Beya, groupement Joua dans la province du Maniema. Il va parler de la semence de riz donnée aux habitants du village Kenyé par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a présidé hier, vendredi 5 juillet, au palais présidentiel de Mongalema, une réunion stratégique consacrée aux questions urgentes concernant la sécurité dans l'est du pays et la trêve humanitaire proposée par les États-Unis. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a rappelé, je cite, « la détermination du président de la République et du gouvernement à rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national congolais ». On l'écoute dans ses propos recueillis par Alain Hirung.
Vous savez que le président de la République suit de très près la situation dans l'est de la RDC, la situation sécuritaire spécifiquement. Nous avons été il y a quelques jours en réunion du Conseil supérieur de la Défense et il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés. Il était question autour du président de la République de faire le point de cette situation. Vous avez entre autres suivi la trêve obtenue, proposée par le gouvernement américain, la trêve humanitaire pour permettre d'avoir une intervention sur terrain du fait justement des agissements du gouvernement rwandais et de ses supplétifs du M23. Donc il était question de passer en revue toutes ces questions-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme il avait dit au cours de la dernière réunion du Conseil supérieur de la Défense, que la détermination est restée la même pour s'assurer que nous faisons tout pour récupérer chaque portion de notre territoire national occupé par ces terroristes et par le Rwanda. Et il y a déjà beaucoup de pressions qui sont faites sur le Rwanda. Notamment, vous avez suivi le blocage de l'aide humanitaire prévue par l'Union européenne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de nos efforts diplomatiques.
Notez que la Première ministre, les ministres de l'Intérieur et de la Défense, la ministre des Affaires étrangères ont aussi pris part à cette rencontre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu aussi une réunion avec la task force du haut commandement militaire, a ajouté Patrick Muyaya. Par ailleurs, le Conseil des ministres a été présidé hier par la Première ministre Judith Suminwa. De son côté, l'Union européenne se félicite de l'annonce d'une trêve humanitaire dans l'est de la RDC dès hier vendredi à minuit. Cette trêve a été négociée par les États-Unis entre le gouvernement congolais et le M23 appuyé par son parrain rwandais. Dans un communiqué publié hier, l'Union européenne dit espérer que cette trêve conduise à un cessez-le-feu permanent. Les détails avec Martial Papimukeba.
Dans son communiqué, l'Union européenne salue d'abord les efforts déployés par les États-Unis d'Amérique. Elle se félicite ensuite de l'engagement de la RDC et du Rwanda en espérant que cette trêve humanitaire conduira à un cessez-le-feu permanent. Ceci pour permettre d'aboutir à une solution politique durable dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. L'Union européenne déclare que la situation humanitaire dramatique dans l'est de la RDC souligne la nécessité urgente de mettre fin immédiatement à la violence. Il est également impératif de démobiliser tous les groupes armés et de mettre fin à tout soutien à ces groupes, comme le stipule la déclaration de l'Union européenne du 4 mars 2024, insiste l'Union européenne dans son communiqué. Conformément à sa stratégie pour les Grands Lacs, l'Union européenne réaffirme l'importance de s'attaquer aux causes profondes de la crise et de favoriser la coopération entre les pays de la région. En fait, l'Union européenne s'est dit déterminée à soutenir les efforts visant à instaurer une paix durable et à promouvoir le développement durable dans toute la région. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pour rappel, nous l'avons dit, le gouvernement américain a appelé dans un communiqué publié jeudi les parties au conflit armé opposant la RDC à la rébellion du M23 à observer dès ce vendredi à minuit une trêve humanitaire de 2 semaines. Pour sa part, le gouvernement congolais confirme cette trêve humanitaire obtenue par les États-Unis. Province du Bas-Uele à présent, des hommes armés se sont introduits lundi dernier dans la localité de Yakpa, territoire de Bondo, situé à près de 500 km au nord de Kisangani. Ils ont emporté un colis de matières précieuses, une somme importante d'argent, ainsi que d'autres biens de valeur appartenant à des particuliers. Alors que les victimes réclament justice, l'administrateur du territoire déclare que les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de cette incursion. Explication avec Jacques Moukonkole.
La Fédération des entreprises du Congo, Fekebondo, déclare que l'incident s'est produit vers 1h du matin. Les assaillants en tenue militaire ont fait irruption dans le centre des négoces de Yapa. Selon le premier conseiller de cette organisation, Abia Mungua, 5 grands comptoirs d'achat de matières précieuses ont été ciblés par ces hommes en armes. Ils ont tiré des coups de feu pendant 3 heures avant de piller 5 comptoirs. Ils ont emporté 353 millions 500 francs congolais, 1 kilo d'or, ainsi que 30 téléphones Android. Contacté, l'administrateur du territoire de Bondo, Thierry Mbokani, déclare que le comité local de sécurité a initié des enquêtes afin d'identifier les malfrats.
On venait même de prendre l'un des bandits et il est maintenant abandon parce qu'il nous disait que les autres sont abandon. Ils étaient en tenue militaire. Nous avons vu aussi une arme de guerre, AK-47. Ces gens viennent de Kisangani. Nous avons récupéré un montant de 4 millions 500.
Cet incident est le deuxième du genre cette année dans cette localité. Le premier avait eu lieu en janvier dernier. Les assaillants avaient emporté 5 kilos d'or et 80 millions de francs congolais après avoir blessé par balle 2 opérateurs miniers. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Katanga, après un temps d'accalmie, la criminalité urbaine refait surface dans la ville de Lubumbashi. Des bandits dérangent la vie des paisibles citoyens. Enlèvements, cambriolages, vols de téléphones, vols avec violence, ainsi que de viols des femmes et des jeunes filles. C'est à ces différents actes de violence que les habitants de Lubumbashi recommencent à assister chaque jour qui passe. Le groupe thématique Gouvernance, Paix et Sécurité du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga lance pour cela un SOS. Son coordonnateur revient sur certains faits et épingle quelques endroits considérés comme infréquentables. Il invite ainsi les autorités à prendre les mesures qui s'imposent pour y mettre fin. Bertin Chose est au micro de Jean Gandou.
Nous avons les enlèvements, le cambriolage où nous voyons le jeune avec deux machettes qui entrent dans les maisons, récupèrent de l'argent, volent de téléphones. Parfois, ils tabassent les gens, ils les blessent, ils violent même les jeunes filles ou les femmes qu'ils vont trouver et ça amène une psychose et des inquiétudes au même moment. Nous avons le braquage avec comme cible des cambistes. Il y a des quartiers qui sont vraiment aujourd'hui en difficulté. Nous avons le quartier Golf Maïcha, Kawama 1 et Kawama 2, le quartier Kassapa, le quartier Mumbunda, le quartier Zambia, le quartier Luoshi. Nous avons encore des endroits criminogènes. Sur l'avenue Mobutu coin Kamanyola, où il y a de Chege, la route Katuba au niveau du pont, entre 19h, 20h, 21h, c'est quand vous passez, on vous récupère tout ce qu'il y a, et parfois on vous jette dans l'eau. Il y a la route circulaire, il y a des bandits au niveau des rails, et tabasser les gens, récupérer tout ce qu'ils ont. Nos autorités doivent faire les efforts pour en finir.
Retour à Kinshasa pour parler du procès de la tentative du coup d'État manqué du 19 mai dernier. À l'audience publique d'hier vendredi, le prévenu Marcel Malanga, fils du chef de la bande décédé, témoigne avoir été victime de l'emprise de son père dont il avait peur, la peur qu'il le tue. « C'est mon père Christian Malanga qui avait tout organisé et m'avait forcé à intégrer un mouvement dont je ne connaissais nullement la mission », dépose le prévenu devant le tribunal militaire à la prison de Ndolo. Il dédouane par ailleurs l'auteur de cette affaire, d'autres prévenus, dont Jean-Jacques Ouondo et les femmes de l'hôtel Momo Auberge 19 de la commune de Ngalima, qu'il dit n'avoir jamais aperçu lors de l'opération de sa genèse jusqu'à la fin. On écoute ici l'avocat de Marcel Malanga, maître Sylvain Mbikaï, résumer sa déposition au micro de Jeff Ngoy.
Il n'est pour rien dans tout ce qui est passé. Il a été forcé comme toutes les autres personnes là-dedans. Donc il ne connaît rien. Il est venu ici au Congo. Il n'est pas venu pour faire un attentat ou faire un renversement de pouvoir. Mais il est venu simplement pour rendre visite à son père. Un père dont il a vu pour la dernière fois en 2021 pour une courte période et dont le père l'a quitté à l'âge de ses 16 ans. C'est comme ça que lorsqu'il est venu ici au Congo, c'était avec une grande joie de retrouver son père. Et c'est ainsi qu'ils ont été logés, lui et son camarade Taylor, ils ont été logés à l'espace Momo 19 en Ngalima. Et fort malheureusement, dans la nuit du 18, ils ont été réveillés brusquement par son père. Et son père l'a forcé à porter des tenues et à monter dans un bus où il y avait toutes ces personnes-là.
Justice encore, en plus bref, peine de mort contre 15 prévenus poursuivis pour association des malfaiteurs et terrorisme, 2 ans de prison contre un lieutenant-colonel pour détournement de munitions de guerre et des acquittements pour 6 autres prévenus. C'est le verdict rendu par la cour militaire de l'Ituri dans son arrêt lors d'une audience publique vendredi à la tribune officielle de Bunia, chef-lieu de province. Plus de 700 ménages vivent sans abri et dans des conditions inhumaines depuis la semaine dernière dans le territoire de Loubefo, province de Sankoro. L'administrateur de territoire assistant indique que les feux de brousse ont ravagé plus de 300 maisons dans sept villages. Le député national Hippolyte Diaté, élu de Loubefo, demande au ministre des Affaires sociales d'organiser une assistance humanitaire en faveur des familles sinistrées. Esther Ndalafina.
Plus de 700 maisons ont été brûlées dans le territoire de Loubefo depuis le début de la semaine dernière à ce jour. Le feu a consumé des centaines de maisons dans la localité de Makadi dans le secteur de Basongo et dans la localité de Ousenge dans le groupement de Benankoy, secteur de Njovo. Dans ce même secteur, le feu a encore consumé une centaine de maisons dans la localité de Minga dans le groupement de Songo et des maisons dans la localité de Asekokalo. Au cours de la même semaine, ces feux de brousse ont également ravagé plus de 100 autres maisons dans la localité de Ndjalo, dans le groupement de Okoto, Sala et une trentaine de maisons dans la mission catholique de Loubefo. D'après Pierre Njoko Ochudi, administrateur des territoires assistants en charge des finances, les familles sinistrées vivent dans des conditions difficiles. Le député national Hippolyte Ndjaté, élu de Loubefo, demande au gouvernement central d'organiser une assistance humanitaire en faveur des familles sinistrées.
C'est une aide d'urgence qui doit permettre à reloger les sinistrés qui sont oublier les besoins en vivres, c'est-à-dire de nourriture, les médicaments, les vêtements et le matériel aratoire.
Signalons que ces feux de brousse ont également brûlé quelques écoles et les centres de santé. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'inspecteur général de l'EPST rend public le chronogramme du processus des publications des résultats de l'examen d'État session 2023-2024. Dans un communiqué hier vendredi, Jacques Odia Musungai indique que pour la période post-épreuve, l'inspection générale a mis les moyens pour rassembler les mal d'items au Centre national de correction situé ici à Kinshasa. Les détails de ce chronogramme avec vous, Étienne Lissumbu.
Selon ce chronogramme, la réception des malles est prévue du 1er au 20 juillet, le dépouillement du 1er au 28 juillet, le scannage et des contrôles de copies scannées du 3 juillet au 1er août, des contrôles des résultats avant publication du 20 juillet au 20 août et l'élaboration du palmarès et production du rapport final du 11 au 24 août prochain. Une période de 55 jours est programmée pour réussir toutes ces opérations, note le communiqué. Dans ce communiqué, l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté précise aussi que la session 2023-2024 de l'examen d'État a connu un effectif de 962 887 candidats au cycle long, dont 42% des filles et 5417 candidats au jury national du cycle court, dont 18,5% répartis dans 2960 centres de passation.
Pendant ce temps, à la province éducationnelle de l'EPST Nord-Ubangi 2, les enseignants se plaignent du non-paiement de leur salaire de mois de mai et juin 2024. La plupart disent rencontrer des difficultés pour payer les loyers. D'autres ont du mal à s'occuper de leurs propres enfants qui passent déjà de longues journées de vacances sans manger. À l'issue de leur assemblée générale, ces enseignants ont décidé de boycotter tous les travaux de rapportage de fin d'année scolaire. Ils refusent également d'organiser des tests d'inscription des nouveaux élèves pour l'année scolaire 2024-2025. Le président syndical des enseignants de l'EPST Nord-Ubangi 2 lance un SOS à l'endroit de la ministre nationale de l'EPST. Nicolas Précieux-Vallée est au micro de Paul-Richard Malengela.
À l'heure où je vous appelle, l'enseignant de la province éducationnelle de Nord-Ubangi 2 n'a pas touché son salaire il y a jour pour jour 74 jours aujourd'hui. Et à la clôture de notre assise, il y a eu de grandes décisions qui sont prises. 1. La non-reprise des activités scolaires si nos salaires de 2 mois ne sont pas versés avant le 15 juillet. 2. Toutes les activités liées au rapport du côté bureau administratif, à l'inscription et aux organisations de tests d'admission sont suspendues. Donc aucune activité n'est autorisée jusqu'à ce qu'on nous remette dans nos droits. Ce sont là les deux principales recommandations que nous avons formulées. Juste, Excellence la ministre Raissa Dinanga Malou, elle sorte qu'elle prenne en considération nos revendications parce que c'est jour pour jour, 2 ans aujourd'hui, la province éducationnelle du Nord-Ubangi dès se sent abandonnée par le ministère des tutelles.
Actualité internationale.
Deux sommets présidentiels se tiennent ce week-end en Afrique de l'Ouest. Le premier aujourd'hui samedi à Niamey au Niger avec les régimes militaires sahéliens et le second dimanche à Abuja au Nigeria entre les autres pays membres de la CDAO. Celui de ce samedi rassemble les présidents de l'Alliance des États du Sahel, AES, une organisation créée en septembre 2023 et qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Après plusieurs rencontres bilatérales, c'est la première fois que les trois hommes forts du Sahel se réunissent depuis leur arrivée au pouvoir par des coups d'État entre 2020 et 2023. Selon la présidence burkinabé, la lutte contre le terrorisme et la consolidation des relations de coopération seront notamment au menu. Les pays de l'AES ont fait de la souveraineté une ligne directrice de leur gouvernance. Ils ont tourné le dos à la France, l'ex-puissance coloniale dont ils ont tour à tour chassé les soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste de leur sol.
L'invité.
Jérôme Boalé Sokiluka est l'invité de ce journal. Il est moniteur agronome dans le secteur des Béa, groupement Djoua dans la province de Maniema. Il explique comment la population du village Kenyé a reçu la semence de riz du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR avec l'appui du Fonds international de développement agricole FIDA. Jérôme Boalé s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Boalé Sokiluka Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Ici au village Kenyé, vous avez reçu des padrilles de semences. Dites-nous comment est-ce que vous avez utilisé ça et en quoi est-ce que ça vous a été utile?
Effectivement, les padrilles nous ont donné les semences de riz, les semences d'Enerica 4 pour les premières phases. Et il y a eu 100 bénéficiaires dans ce village qui ont bénéficié les semences. Et chacun bénéficiait au moins 20 kg. Et ils ont semé plus de 85% ont réussi la production parce qu'il y a eu plus de la moitié qui ont réussi cette production. Bien qu'il y a eu un petit nombre qui s'est lamenté parce qu'il y a eu des prédateurs et des animaux ravageurs qui ont ravagé leurs champs, mais la production d'abord des Enerica 4 que les padrilles nous ont donné en Kenya a fait de l'avantage dans la population.
Par rapport aux semences, au récit et au nombre de mélanges, y a-t-il encore d'autres demandes?
Jusque-là, les semences qu'on nous a données, ça ne suffit pas parce que Kenya, c'est un grand village dans le groupe Majoua et il y a plus maintenant de 200 bénéficiaires autres qui demandent de padrir, de les aider aussi avec ces semences améliorées parce que c'est une semence de bonne qualité que la population en a besoin.
Comme vous dites que vous avez réussi à produire, qu'est-ce que vous avez fait alors de cette production?
Vraiment, moi j'accompagnais les producteurs pour leur donner un peu de la notion sur la technique de l'agriculture, parce que c'est juste ces notions que je les donnais, c'est au fur et à mesure qu'il y a eu maintenant une compréhension que les agriculteurs ont réussi à trouver une production valable par rapport à la semence.
Oui, toute cette production, vous avez tout mangé ou bien vous avez gardé une partie ou carrément vous avez tout vendu?
Bon, compte tenu aux nombreuses difficultés qui menacent toujours la population, il y en a ceux qui ont mangé tout, mais ceux qui nous ont compris par rapport aux formations que nous donnions aux populations, ils ont réservé quelques semences, mais c'est en petite quantité. C'est pour cette raison que nous demandons toujours aux padris de rehausser, ajouter un grand nombre de ces semences pour que la population ait au moins une production efficace dans cette entité.
Ici dans le village Kenya, est-ce que vous avez des marchés où vous pouvez écouler facilement vos produits agricoles?
L'écoulement est facile parce que nous sommes près de Kalima ici. C'est à Kalima où il y a un marché. Actuellement en Kenya, il n'y a pas encore un marché, mais ce sont les commerçants de Kalima qui viennent souvent chaque jour pour acheter ces productions ici en Kenya.
Alors, pour faire mieux, en dehors des semences de riz, vous avez encore besoin d'autres variétés pour améliorer votre activité?
J'aime bien en tout cas que le padrir nous amène ces variétés d'abord en abondance parce que les bénéficiaires sont maintenant nombreux qui demandent. Il y a eu ajout parce qu'auparavant on a donné aux 100 bénéficiaires mais il y a 200 autres qui attendent maintenant les semences qu'ils nous facilitent à rehausser le nombre de la quantité de ces semences par rapport à l'année passée.
L'agriculture c'est aussi la formation. Le ménage du village kenyan ont déjà bénéficié d'une formation quelconque en la matière?
Ici, vraiment, nous avons besoin d'être formés. Il faut que les padrirs, maintenant, nous encadrent cette population avec la formation pour qu'ils savent mieux s'aimer et produire mieux, beaucoup plus que cette année passée.
Monsieur Jérôme, est-ce que cet appui des padrirs, ça résout un peu un problème social de la population locale ici?
Je pense que oui, ça vient résoudre parce que vous avez vécu vous-même le témoignage de la population ici. Il y en a ceux qui ont vendu les riz pour payer les frais de scolarité de ses enfants, ça produit déjà, ça amène un avantage.
Pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres personnes qui ne sont même pas des padriers?
Moi, j'aime bien que les padrirs nous encadrent en tout cas et qu'ils ne laissent pas ce village en Kenya parce que à chaque année, je pense qu'ils viendront trouver toujours, il y a un nombre à ajouter parce que la population est très grande ici et ils ont besoin suffisamment parce que l'acte que les padrirs ont posé l'année passée, ça montre que cet appui des padrirs peut faire face au malheur de la population des Djoua.
Monsieur Boleso Kiluka Jérôme, je vous remercie.
C'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi, un journal préparé par Alain Hiron-Mouchinge et mis en onde par Billy Landry-Beto.